Bonjour, nous allons entendre le secrétaire général et le Premier ministre et ensuite il y aura la possibilité de poser quelques questions. Monsieur le secrétaire général, c'est à vous. Monsieur le Premier ministre, cher Boris, bienvenue à l'OTAN. C'est toujours un plaisir que de pouvoir vous accueillir. Je voudrais également remercier le Royaume-Uni d'être un allié fort et déterminé qui contribue vraiment à notre défense collective et ce, à bien des égards. Alors, nous venons de parler du renforcement de la présence militaire russe en Ukraine et à proximité de ce pays. La Russie a déjà massé bien plus de 100 000 troupes prêtes au combat. Il y a également du matériel lourd, des missiles et des éléments facilitateurs importants tels que des unités de commandement et contrôle ou encore des unités médicales. Nous sommes en train de suivre de près le déploiement de la Russie au Bélarus, plus gros déploiement depuis la fin de la guerre froide. Nous sommes donc à un moment important et dangereux s'agissant de la sécurité européenne. Le nombre de forces russes augmente, le temps d'alerte par rapport à une attaque potentielle, lui, est à la baisse. Alors, l'OTAN se prépare pour le pire, tout en restant fortement engagée par rapport au fait de trouver une solution de nature politique. Le Royaume-Uni joue un rôle moteur, avec des contributions tant militaires que diplomatiques. Je me félicite de votre proposition de mettre à disposition plus d'hommes et de femmes, de navires et d'avions pour l'OTAN. Les troupes supplémentaires que vous avez déployées en Pologne sont un exemple tangible de la solidarité alliée. Le Royaume-Uni dirige le groupement tactique de l'OTAN en Estonie. Vous contribuez à la mission de police du ciel et le porte-avions HMS Prince of Wales dirige la force maritime à haut niveau de réactivité de l'OTAN. Tout ceci envoie un message clair qui est que nous allons défendre et protéger l'ensemble des alliés. Nous avons également une diplomatie active au niveau de l'ensemble de l'Alliance avec des dirigeants de l'OTAN qui travaillent pour faire en sorte qu'il y ait une désescalade de la part de la Russie. Alors, je me félicite de votre soutien auprès de l'Ukraine. Je me félicite également des contacts récents avec le président Poutine, la visite également de la ministre des Affaires étrangères, Madame Truss, à Moscou aujourd'hui. Ce matin, j'ai envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov, et j'y ai renouvelé mon invitation à la Russie pour que l'on poursuive notre dialogue dans un ensemble de réunions du Conseil OTAN Russie. Il s'agira de trouver une solution diplomatique. Nous sommes disposés à écouter, entendre les préoccupations russes et parler des manières de renforcer les principes fondamentaux de la sécurité européenne, des éléments que nous avons, auxquels nous avons tous souscrit. Nous avons proposé des échanges d'exposés sur les exercices et sur nos politiques nucléaires. Nous avons réfléchi à des manières de renforcer la transparence et réduire les risques dans les activités militaires, réduire les menaces au niveau spatial et cyber et avoir un échange sérieux s'agissant de la maîtrise des armements, en ce compris les armes nucléaires et les missiles à courte et moyenne portée au niveau sol. Tout ceci constitue des éléments importants pour un dialogue véritable. Cela étant, l'OTAN ne reviendra pas sur des principes fondamentaux, le droit de chaque pays à choisir son avenir et la possibilité pour l'OTAN de défendre et protéger tous les alliés. La semaine prochaine, les ministres de la Défense de l'OTAN évalueront d'autres possibilités pour ce qui concerne le renforcement de la sécurité alliée. Il y a là notamment la possibilité d'avoir des groupements tactiques supplémentaires dans la partie sud-est de l'Alliance. Il faut comprendre que une agression russe donnera lieu à une plus grande présence de l'OTAN et non pas l'inverse. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour votre rôle dans l'Alliance et pour votre engagement personnel auprès de l'OTAN.
Merci beaucoup, Jens, de nous souhaiter la bienvenue ici à l'OTAN. Nous sommes toujours ravis de vous voir. Quand l'OTAN a été créée il y a plus de 75 ans, ses membres se sont engagés à une défense collective qui était quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire. Et quand le mur de Berlin est tombé, les peuples d'Europe ont indiqué clairement qu'ils souhaitaient que leur liberté et leur sécurité soient liées. C'est pourquoi l'OTAN a décidé que tout pays devait pouvoir avoir le choix de ses alliances de sécurité. Et c'est pourquoi nous devons maintenant nous opposer à tout retour en arrière à l'époque où le destin des pays est décidé derrière leur dos par un petit nombre de grandes puissances. Il ne s'agit pas là que de la Russie. L'OTAN ne concerne pas ou ne s'intéresse pas que à la Russie. Il s'agit là de défendre les principes fondateurs d'une alliance qui peut être plus qu'aucune autre institution à apporter la stabilité, la paix et la prospérité à travers le monde. Et c'est ce qui doit être le socle de nos efforts diplomatiques. Les efforts et l'attachement du Royaume-Uni à la sécurité européenne est inébranlable. Nous avons le plus gros budget de défense en Europe et sommes au deuxième rang au sein de l'OTAN. Nous avons contribué des forces à la présence avancée et rehaussée de l'OTAN. Et aujourd'hui, nous avons appuyé des mesures pour renforcer encore notre sécurité collective avec l'envoi de forces, d'avions et de navires pour défendre l'OTAN du nord au sud. J'ai rencontré le Premier ministre de Lituanie cette semaine. Je vais m'en rendre bientôt en Pologne. Ce sont des pays où chaque jour, la population se réveille en ayant pleinement conscience de la menace qui se trouve à leurs frontières. Ce sont des pays dont nous devons entendre les voix dans toutes les discussions que nous menons. En effet, j'estime que si nous réussissons à nous en tenir à ces principes fondamentaux qui définissent notre alliance, et si nous pouvons combiner une dissuasion forte avec la diplomatie, alors nous trouverons une issue à cette crise. Mais les enjeux sont très élevés et nous nous trouvons à un moment très dangereux. Ce qui est en jeu, ce sont les règles qui protègent tous les pays, grands et petits. Merci Jens, merci à vous tous. Nous sommes prêts à entendre quelques questions des médias.
Merci, nous commençons par Sky News. Merci. Quelques questions. Monsieur le Premier ministre, il y a 15 jours de cela, vous avez dit que les renseignements étaient très préoccupants par rapport au caractère inévitable d'une invasion russe en Ukraine. Alors depuis lors, la combinaison de la menace de sanctions, le déploiement de troupes auprès des alliés à l'est de l'Alliance et les efforts diplomatiques qu'il y a eu. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à la conclusion que Poutine souhaite qu'il y ait une guerre? Ensuite, Monsieur le Secrétaire Général, vous venez dire que le moment est dangereux par rapport à la sécurité européenne. Alors, différents alliés, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, ont une approche légèrement différente par rapport à la manière de traiter avec la Russie. Est-ce que c'est là quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous pensez qu'il y a là peut-être des messages un petit peu ambigus qui sont envoyés à la Russie? Je sais que vous êtes inquiet du fait que les différences entre les partenaires pourraient mettre à mal un déploiement de l'OTAN. Beth, merci beaucoup. Pour répondre directement à la question par rapport à ce qui se passe à Moscou, de mon point de vue, et les calculs qui ont cours là-bas, très sincèrement, je ne pense pas qu'une décision ait été prise. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il est impossible que quelque chose de catastrophique puisse se produire, et ce, très rapidement. S'agissant de nos éléments de renseignement, je suis obligé de dire que ça reste assez préoccupant. Nous voyons un grand nombre de groupements tactiques aux frontières de la Russie et de l'Ukraine. Il y en a 70, voire plus. Donc c'est sans doute le moment le plus dangereux ces jours-ci par rapport à cette principale crise sécuritaire qu'a connue l'Europe depuis des décennies maintenant. Donc il faut que nous procédions de la bonne manière. Je crois que la combinaison de sanctions et de détermination militaire, ainsi que nos efforts diplomatiques, c'est absolument nécessaire. Et je crois que tout le monde comprendra, parce que vous avez posé la question de notre unité par rapport aux sanctions. Eh bien, je crois que c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus cette unité. Je félicite le chancelier Scholz en Allemagne par rapport au fait d'avoir pu adopter une position plus dure, plus ferme par rapport à Nord Stream 2. C'est quelque chose évidemment qui n'est pas anodin pour l'économie allemande. Je crois que le Royaume-Uni a pu réunir des acteurs autour de l'idée d'un paquet de sanctions qui entrerait en jeu automatiquement pour mettre à mal les intérêts commerciaux et économiques de ce pays. Donc plus on aura des sanctions fortes, plus on arrivera à assurer une dissuasion par rapport à une réponse irrationnelle. D'autre part, nous sommes en train de faire en sorte que l'on puisse travailler avec les Russes, qu'on soit présent, on essaye d'être présent au niveau de l'ensemble de la frontière orientale de l'Alliance. Et Jens a eu la gentillesse de rappeler tout ce que nous faisons. Nous soutenons par exemple l'opération Cold Response au nord, en Norvège. Cela se fait avec le HMS Prince of Wales. Il y a notre brigade en Estonie. On augmente notre présence. Pareil, il y a des efforts en Pologne. Je vais bientôt me rendre. On va rajouter 350 personnes par rapport à notre commandement là-bas. Il y a de la police du ciel en Roumanie, avec un nombre de typhoons plus élevé qui sont déployés à partir de Chypre. Et nous envoyons des navires dans la Méditerranée orientale et au niveau de la mer Noire. Ainsi, comme ça a été dit par Jens, nous sommes également en train de mettre en alerte 1000 troupes pour se préparer à une éventuelle crise humanitaire que l'on pourrait avoir sur le flanc est, à la frontière est de l'OTAN. Donc nous sommes en train de nous préparer d'un point de vue militaire. Il y a la préparation de sanctions économiques, mais nous sommes également disposés à parler, à avoir un dialogue. Et je crois que Jens a très bien résumé la situation dans son propos. Il y a des éléments qui ne sont pas l'objet de négociations, par exemple l'idée d'une Europe pleine et libre, l'idée que l'Europe doit avoir, que l'OTAN doit avoir une politique de la porte ouverte, le peuple ukrainien doit pouvoir aspirer à devenir membre de l'OTAN. Et puis, il y a des points sur lesquels, effectivement, on peut avoir une discussion, des points où l'OTAN, le Royaume-Uni, les États-Unis et les autres sont prêts à avoir des discussions. On peut penser, par exemple, à la transparence s'agissant des exercices de l'OTAN, s'agissant de la posture de force de l'OTAN, s'agissant également du stationnement de missiles. On peut également envisager des avancées, Jens l'a dit, par rapport à tout ce qui relève du FNI et où il y a des violations russes, avancées par rapport aux missiles à portée intermédiaire. Tout cela, ce sont des éléments qui peuvent être l'objet de discussions et il est vraiment préférable de démarrer des discussions maintenant plutôt que d'être confronté à une situation catastrophique. Donc voilà ce pourquoi nous militons et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours sur tous ces fronts-là. Mais Beth, savoir si ça va porter ses fruits, savoir si ça va fonctionner, je ne peux tout simplement pas vous le dire. Oui, pour ce qui est de l'unité de l'Alliance, il me semble que ce que l'on a pu voir au cours des dernières semaines et des derniers mois, c'est en fait une OTAN des plus unies. Nous sommes ensemble, que ce soit par rapport à nos efforts diplomatiques, mais également pour ce qui concerne l'adaptation militaire qui est nécessaire et que nous avons mise en œuvre. Pour ce qui est des efforts diplomatiques, tous les alliés sont d'accord pour dire que nous devons travailler avec la Russie pour avoir un véritable dialogue afin d'arriver à une solution politique et pacifique à ce conflit. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons invité la Russie à participer à des réunions dans la configuration Conseil OTAN-Russie. Et je me félicite également du fait que des alliés tels que le Royaume-Uni, mais également d'autres, travaillent directement avec la Russie. La secrétaire d'État, Mme Truss, est à Moscou aujourd'hui. Il y a d'autres alliés qui ont fait ce genre d'efforts. C'est très important pour qu'on puisse avoir ces liens avec la Russie. Mais ceci repose sur un message d'unité qui a été convenu par tous les alliés. Nous sommes convenus d'un document complet que l'on a envoyé à la Russie. Ça a été notre réponse conjointe, notre réponse unie au traité à caractère contraignant qui nous avait été proposé par la Russie il y a quelques semaines de cela. Tout cela, ça constitue une base de départ agréée. Ça a été dit par Boris. On évoque les domaines où on est prêt à avoir des échanges, maîtrise des armements, missiles, le nucléaire et bon nombre d'autres dossiers. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait quelque chose de vérifiable et d'équilibré. Et puis, on évoque également les domaines où il ne saurait y avoir de compromis de notre part. On pense par exemple au droit pour chaque pays de choisir son chemin et puis le droit pour l'OTAN de défendre et protéger tous les alliés. Ça, ce sont des points très importants. On ne peut pas avoir des alliés de seconde classe qui seraient ceux qui sont devenus membres de l'OTAN après 1997. Tout cela est tout simplement inacceptable pour nous. Par contre, quelque chose de vérifiable et d'équilibré au niveau de la maîtrise des armements, c'est quelque chose auquel nous sommes attachés et nous sommes prêts à travailler avec la Russie là-dessus. Je reviendrai rapidement sur le fait que l'adaptation militaire envoie un message clair. Ce message, c'est que la Russie a un choix à faire. Soit ils peuvent opter pour une solution diplomatique, et là on peut travailler ensemble. Par contre, si la Russie opte pour la confrontation, le prix sera élevé. Il y aura des sanctions économiques. Il y aura une plus grande présence militaire de l'OTAN dans la partie orientale de l'Alliance. Le Royaume-Uni joue un rôle très important par rapport à cela. Ils ont déjà eu l'annonce de nouveaux déploiements. Au-delà de ce qui a déjà été déployé par le Royaume-Uni dans la partie orientale. Et puis, les forces armées ukrainiennes sont beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2014. En effet, le niveau d'équipement, d'entraînement, de commandement est bien meilleur. Et je me félicite du fait que le Royaume-Uni et d'autres alliés puissent apporter un soutien aux forces de défense ukrainiennes afin que ces forces puissent se défendre elles-mêmes. Ça nous semble être le droit de chaque pays que de se défendre. Et c'est une très bonne chose que les alliés, notamment le Royaume-Uni, aient pu aider l'Ukraine à jouir de ce droit. Nous donnons la parole à la BBC.
Question. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, jusqu'où êtes-vous prêt à engager le Royaume-Uni, en plus de ce qui se fait déjà? En cas d'invasion, par exemple, est-ce que le Royaume-Uni appuierait une sorte d'insurrection? Et si vous êtes reconnu comme ayant enfreint la loi, est-ce que vous allez démissionner? Je me permets de vous poser directement cette question. Monsieur le secrétaire général, la Russie a amassé plus de 100 000 forces. Les alliés, eux, engagent un millier par-ci et un millier par-là. Est-ce que l'OTAN est à la hauteur? Réponse du Premier ministre. Tout d'abord, sur votre question sur ce qui se passe sur le plan intérieur, le processus va devoir être achevé et c'est ce que j'attends et c'est à ce moment-là que je m'exprimerai à ce sujet. Maintenant, sur votre question quant à ce que nous pouvons faire pour appuyer davantage l'Ukraine, tout le monde sait que nous avons été très actifs pour ce qui est d'apporter un soutien aux forces armées ukrainiennes. Effectivement, les forces armées ukrainiennes sont maintenant solides. Quelques 200-250 000 hommes et des réservistes, ils vont certainement combattre s'ils y sont appelés. Il y a énormément d'entraînement qui a été fait. 22 000 soldats ukrainiens ont été entraînés par nos efforts. Nous avons envoyé aussi des systèmes d'armes. Nous allons voir ce que nous pourrions proposer de plus. Mais en tout cas, je peux vous dire que les Ukrainiens sont bien préparés. Et nous leur avons même fait certaines offres qui ne leur semblaient pas nécessaires. Donc, rien n'est exclu, mais pour l'instant, il nous semble que le soutien que nous apportons est celui qui convient. Je voudrais en tout cas souligner le fait que ça serait une catastrophe si on en arrivait là et s'il y avait un bain de sang sur le sol ukrainien. Je sais qu'en Russie, il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire la même chose. Au Kremlin, à travers tout le pays, en Russie, on doit se poser la question de savoir si vraiment cela a un sens que des soldats russes perdent la vie dans un combat qui serait une tragédie, sans parler du coût économique pour la Russie. Donc, ce que je dirais, c'est que le moment est venu de trouver une autre issue. Le président Poutine parle beaucoup de l'indivisibilité de la sécurité à travers le continent européen, ce qui pour lui sous-entend qu'il ne faut pas que la Russie soit menacée par les actions de l'OTAN. Mais je le souligne, l'OTAN n'est pas une alliance intimidante, agressive, menaçante. Ça n'est pas ce que l'OTAN fait. L'OTAN a préservé la paix, a réussi à faire beaucoup de choses en étant une alliance défensive. Donc on ne peut pas parler de l'indivisibilité de la sécurité en Europe quand par ailleurs on amasse un nombre considérable de forces aux frontières de l'Ukraine. Alors je crois que sur tous les sujets qui viennent d'être évoqués par Jens, nous avons matière à discussion, nous devons nous réunir et voir comment nous pouvons rassurer la Russie sans pour autant transiger sur les principes fondamentaux de la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Je crois qu'il y a une issue, mais qui doit s'accompagner d'une désescalade de la part de la Russie. Et que la menace que nous voyons disparaisse. Il faut une désescalade et des discussions. Question. Question inaudible. Réponse du secrétaire général. L'OTAN est une alliance défensive et notre objectif, c'est de préserver la paix, d'empêcher les conflits. Nous le faisons en restant côte à côte. Comme notre traité fondateur l'indique, une attaque contre un allié sera traitée comme une attaque contre tous, un pour tous et tous pour un. Et c'est ce que nous faisons en ce moment où la sécurité en Europe traverse une période cruciale. Nous faisons beaucoup de choses sur beaucoup de plans. Nous avons déjà augmenté notre présence dans la partie orientale de notre alliance avec plus de forces, des groupements tactiques. Le Royaume-Uni qui a un groupe d'attaque, plus de navires, donc une présence accrue dans la partie orientale. Et puis nous avons aussi augmenté la réactivité de nos forces pour pouvoir réagir très rapidement si nécessaire avec la NRF, la force de réaction de l'OTAN. Et aussi nous avons eu les annonces du Royaume-Uni, des États-Unis, du Danemark, de différents pays qui ont indiqué clairement qu'ils sont prêts à affecter davantage de force à la force de réaction de l'OTAN pour que nous puissions avoir des renforts rapidement et que le temps de réactivité soit également accru. Troisièmement, nous sommes en train d'examiner la question d'avoir un changement à plus long terme dans notre posture dans la partie orientale. Nous avons des groupements tactiques dans les pays baltiques et en Pologne, avec le rôle joué par le Royaume-Uni, notamment en Pologne. Et nous envisageons aussi maintenant des groupements tactiques dans la région de la mer Noire, et notamment en Roumanie. Donc, augmenter notre présence, notre réactivité, et puis des changements à plus long terme dans notre posture. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée.